Comment ne pas songer? Est-ce qu'il y a quelques questions? Pas du tout saugrenu, c'était implacable de poser de parler du début, du milieu et de la fin. Merci, Kai Gohara.
Je voudrais poser la question à M. Bigan. Et j'aimerais que vous puissiez préciser encore une fois un peu ce qu'est la théâtralité dans le début de Moment Voulu, parce que sur le théâtre, je ne connais presque rien, mais je ressens moi aussi la théâtralité dans le récit au Moment Voulu. Donc, je voudrais poser à M. Bidan et plutôt à deux, à M. Vimen aussi, cette question. Qu'est-ce que ça veut dire de voir la théâtralité dans le récit littéraire?
Je commence. Je sais pas, je crois qu'il y a plusieurs choses à distinguer. Ça termine par une question lourde. Hein. Qu'est-ce que la théâtralité dans le récit littéraire? Donc, c'est pas nouveau d'ailleurs, c'est quand même une question qui a été déjà largement abordée. Poéticien, par exemple. Mais... Donc, je ne vais pas répondre à l'intégralité de la question. Peut-être recentrons-nous sur Blanchot. Vous posez la question au départ d'ailleurs essentiellement sur Au Moment Voulu. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'ailleurs que du début particulièrement. Vous dites à un moment donné, vous ressentez une théâtralité. C'est vrai qu'on a tous les trois tenté de faire, de faire logos d'un pathos. Hein. C'est souvent ce qu'il y a. Il y a eu ce qui me frappe, ce qui me touche, ce qui me dans chacune des communications qu'on a pu faire. Et donc la question du coup, je veux dire par là, la question du coup ne porte pas particulièrement sur le début, sur le milieu ou sur la fin. Donc je répondrai autrement que parce que mon exposé, j'imagine, répondait déjà. Donc ressentir, on partait de là, on ressent de la théâtralité dans Au Moment Voulu. Là aussi, on peut faire de pathos logos. Il y a tout un tas de... Je parlais éventuellement à un moment donné de schématiser, d'aller jusqu'à schématiser une poétique blanchotienne. Il y a effectivement une poétique théâtrale, si on veut, dans Au Moment Voulu. On l'a aussi à la fin des récits qu'a évoqué Jonathan, parce que c'est très immédiat. Tu évoquais les quelques références au cinéma dans les articles ou les romans. De références théâtrales, il n'y en a guère dans la pensée de Blanchot. Il y en a guère, mais elles sont importantes quand même. C'est un texte sur Brecht, notamment, que Daniel Willem, ici présent, a déjà amplement, fortement commenté. Il y a aussi quelques textes qui n'ont jamais été repris en volume, puisqu'il s'agit d'articles notamment écrits dans les années 40, et puis aussi un texte sur Claudel, etc. Alors, ceci pour rappeler que, évidemment, la question du théâtre n'était, même s'il y allait fort peu, et probablement moins encore qu'au cinéma, et qu'il n'aimait pas ça, puisque disait-il, Monique, je crois, il n'était pas un homme de spectacle, et ça n'est pas pour autant précisément que la forme spectaculaire ne peut pas se retrouver dans le texte. Donc, pour répondre très vite, déjà, il y a évidemment des indices marquant, hein, les dialogues, Alors, qu'il faudrait préciser d'ailleurs, c'est pour ça que je disais à un moment donné, il serait temps enfin qu'on procède à une lecture de la poétique de Blanchot. C'est pas les signes de ponctuation, par exemple, qu'il utilise pour démarquer tout à coup dans le récit un dialogue, par exemple, sont pas évidents. C'est un petit peu comme l'étrangeté que tu mentionnais à la fin des récits. Ce décrochage, par exemple, ben, la notion de décrochage, précisément, elle est présente constamment. Je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de dire aussi. C'est ce qui rassemble un peu les trois interventions d'ailleurs, et c'est ce qui rend la lecture à haute voix justement encore plus difficile des récits. Il y a des décrochages tout le temps. Il y a des décrochages de phrase à phrase. Il y a des décrochages à l'intérieur des phrases. Il y a des décrochages dans les marqueurs. On sait à quel point, par exemple, Derrida s'est arrêté sur les signes typographiques qui mettent en évidence dans tel ou tel recueil de fragments, dans tel ou tel volume critique, les différentes phrases, les différents tons. Je rappelle que dans La solitude essentielle, Blanchot est sur le point de théoriser la notion de ton, qui est une notion qui est bien branlante, aussi bien en littérature qu'en théâtre, précisément. Voilà, je réponds pas directement ni amplement à votre question parce qu'elle est d'une ampleur telle qu'on ne peut pas y répondre rapidement, mais je suggère simplement que les indices théâtraux se multiplient et se multiplient d'autant plus que qu'ils ne sont pas évidents, qu'ils ne sont pas donnés comme tels, qu'ils amènent constamment la lecture, qu'elle soit silencieuse ou orale d'ailleurs, à se déboîter, à se désenchaîner. Moi, c'est ce qui me marque. C'est pour ça que j'ai rapidement, sur deux lignes, vous voyez, j'essaie de procéder en 40 minutes ou un peu plus peut-être, un début comme ça de lecture de la poétique de Blanchot, mais sur deux lignes, en gros, quoi, sur les deux premières lignes de Moment voulu. Et donc... je crois que là, il y a évidemment tout un travail à faire, que ça passe entre autres par la question de la théâtralité. Je ne voudrais pas m'y fixer non plus. Et donc, les quelques différences que j'ai pu énumérer quand je disais oral, oraculaire, ludique, spéculaire, spectaculaire, c'était bien trop rapide. C'est-à-dire que là aussi, il faudrait préciser entre ces différents modes ou ces différentes voies d'intervention. Je crois qu'à chaque fois, en tout cas, je citais Courtois, on pourrait reprendre aussi les travaux discutables, me semble-t-il, mais vraiment intéressants, de Starobinski et de Méchonic sur Blanchot, constater à quel point, d'ailleurs, dans ce qui concerne une approche poétique en tant que telle, ils n'ont guère été améliorés, si je puis dire, à l'exception, je crois, justement, de cet article de Jean-Patrice Courtois. Donc tout un travail à faire là-dessus. Il me semble que ça passe entre autres par cette différenciation. Qu'est-ce que c'est effectivement que de prendre en compte qu'il y a cette oralité écrite, ces stries, ces déboîtements, cette spécularité, cette spectacularité. C'est pas la même chose, mais je pense qu'il est constamment travaillé par le fait que une ligne ne peut pas s'écrire comme ça après une autre, quoi. Et je pense que c'est... Moi, j'ai voulu l'interroger aussi par le biais de la lecture à haute voix, parce que c'est ce qui nous a concernés ici, c'est ce qui probablement fait difficulté à chaque fois, et j'ai essayé de me mettre finalement dans la position de savoir qu'est-ce que ça peut faire, comment ça peut résonner. Donc c'est une autre manière de poser la question de la théâtralité. Je pense que la question de la théâtralité, précisément, elle a été posée ici. Et encore une fois, et alors là, c'est pas Pierre-Antoine qui me contredira, je pense. C'est évidemment pas la théâtralité, par exemple, mais c'est vraiment une question de... je disais, par exemple, de poésie ou de fragments. Enfin, là aussi, en disant que ce « ou », cet « entre », il était particulièrement interrogé encore. Donc voilà, enfin, je réponds pas du tout à votre question, si ce n'est pour dire qu'elle est multiple, quoi. Enfin, qu'elle est présente à chaque ligne des récits. Et à un moment, je dis, avec Blanchot, toujours, les questions sont immenses. Ben oui, mais justement, attelons-nous-y. J'ai essayé modestement de le faire sur deux lignes. Il y en a encore beaucoup d'autres, je crois, à traiter. Tu as un mot à dire en plus, peut-être ? C'est pas en tout cas, excusez-moi, parce que j'ai le sentiment de ne pas répondre à la question en même temps, mais c'est évidemment pas, en tout cas, théâtralité à entendre en termes de, simplement, pour prendre des termes de Nancy, par exemple, que j'utilisais, pas en termes d'espace, mais d'espacement, précisément. Je relève d'ailleurs que si Blanchot est cité par des gens de théâtre, je me rappelle d'un article dans Théâtre Public il y a 2 ans à peu près, c'est évidemment pas. Enfin, c'est par des gens comme Régis ou par Yann Boudot, par exemple, qui était l'un des. Enfin, qui est un comédien qui a beaucoup joué avec Régis ces dernières années, qui notamment portait le texte de Reznikov, Holocaust, qui avait été présenté au Théâtre de la Colline, donc c'est il y a un peu plus, même que 2-3 ans peut-être, je ne sais plus exactement, enfin 4 ou 5 ans. Et sur quoi il citait Blanchot comme étant justement un auteur qui lui importait. Je parle de Boudot, là, en l'occurrence, parce que Régis parle tout le temps de Blanchot, mais sans en mettre 2 ou 3 lignes de plus, quoi. Il les entretient, ou à chaque fois le nom revient, mais sans qu'il détaille quoi que ce soit. Et Boudot, lui, s'explique un petit peu plus, et tout de suite vient cette question de l'interruption, précisément. Alors, on parlait de béance, de bouche bée, de comment parler bouche bée, etc. Et c'est évidemment, et en plus sur un texte comme Holocaust, quelque chose qui était à l'origine même de la poétique de ce spectacle. Donc voilà, si je peux répondre sur une chose précise, outre le travail, je crois, auquel votre question nous appelle, c'est sur cette différence entre simplement la mise en espace, la stéréophonie, la stéréo, je sais pas quoi, enfin l'immensité de la résonance spectaculaire, et au contraire justement c'est sur une poétique de l'interruption, voilà, que Blanchot a évidemment initié lui-même. Je disais justement qu'il faut pas forcément reprendre les termes qui ont été les siens pour ou alors quand on reprend les termes qui ont été les siens, probablement leur donner une ampleur théorique plus forte. C'est ce que fait Nancy d'un point de vue plus philosophique sur la question de l'interruption, et là aussi il y aura probablement des résonances linguistiques et poétiques et stylistiques et esthétiques à mettre en œuvre concernant l'analyse de ces textes.
Une simple petite question. Pourquoi, sur l'épilogale, vous n'avez pas parlé du tout de l'arrêt de mort? Vous n'avez pas cité. L'arrêt de mort, c'est un livre à 2 épilogues, si on peut dire. Le deuxième épilogue a été supprimé en 71. Enfin, il y a un mouvement assez curieux, mais il reste quand même un épilogue, c'est celui qui précède.
Oui, oui. Simplement, je voulais essayer de circonscrire le propos à 2 petits textes, à 2 fins de texte dont on parle pas souvent finalement. L'idylle est le dernier mot, d'une part parce que c'est peut-être des textes un petit peu exotiques dans l'ensemble de la production blanchotienne, et d'autre part parce que du fait même que Blanchot ait commenté entre guillemets ces textes, on pense ou on imagine que tout a déjà été dit. Donc bon, c'était une façon de dire un peu autre chose, mais pour la Reine Mort, bien sûr.
Et puis peut-être parce que vous l'avez déjà remarquablement dit, Pierre Madola. Sur la question de l'épilogue de la Reine Mort, précisément.
C'est la première fois que j'entends théoriser le problème de la manière dont vous l'avez fait. Et tout ce que vous disiez s'appliquait aussi à la Reine Mort, bien sûr. Aurait pu s'appliquer à la Reine Mort. Et ça m'a très, très vivement intéressé. Simplement, je voulais signaler simplement que vous auriez pu, à un moment donné, dire que... Vous avez cité plusieurs exemples dans Blanchot.
J'ai surtout
Vous n'êtes pas tenu à l'idylle et au dernier mot.
Je ferai remarquer qu'il n'a pas cité non plus la fin d'Au moment voulu, que j'ai commenté, mais qui se termine précisément par « Maintenant, la fin oui. », qui appelait aussi, évidemment, commentaire. C'est pas sur l'épilogue, mais... qui d'ailleurs rejoue les mêmes questions, quoi, justement, enfin, je crois.
Je pensais tout à l'heure à quelque chose à propos de la théâtralité. Il y aurait certainement une étude qu'il faudrait faire de façon très, très fine, comme ça, de la ponctuation chez Blanchot à propos de la théâtralité. C'est lorsque, par exemple, dans L'instant de ma mort, ou même dans Après-coup, on a ces constructions particulières, mort-immortel. Bon, tout se joue dans le tiré entre mort et immortel, et peut-être on pourrait dire que la théâtralité, souvent, enfin, chez Blanchot, de ce point de vue, c'est essayer de se faire rencontrer les choses et du coup de monter une scène peut-être typographique à partir de la ponctuation, entre autres, où les choses se rencontrent. En l'occurrence, ici, par exemple, mort et mourir, par exemple, dans L'instant de ma mort. Bon, c'est peut-être un point de détail dans ce que tu disais.
Il y a d'autres questions ?
Non, en fait, c'est l'autre part du micro. Est-ce que vos interventions seront publiées ?
Emmanuel ?
Écoutez, nous en avons déjà débattu à l'intérieur de la BPI, donc apparemment, ce ne serait pas possible cette année, puisque... D'autres projets ont été retenus pour publication, mais nous allons voir avec Christophe Bidan comment nous pouvons organiser la publication, peut-être en coédition en fait avec un autre organisme. Enfin, je pense que nous allons, après la clôture de cette séance, nous allons parler d'avenir dès la semaine prochaine.
Voilà. Je signale simplement que chaque fois oublié de le faire depuis le début, alors qu'il me l'a demandé régulièrement. Je ne sais pas s'il est là ce soir. Eric Opno organise un site internet qui est mauriceblanchot.net, c'est ça que tu me disais, sur lequel il a rassemblé certains résumés d'interventions, je crois, depuis le mois de janvier. Enfin, certains, voilà. Donc mauriceblanchot.net. Je ne sais pas s'il avait eu connaissance de l'existence de ce site sous ce nom, mais il y a un point net à ajouter à son nom.
Oui, j'ajoute en fait concernant les éditions que non seulement on peut envisager et travailler ensemble à un projet de coédition, mais qu'à partir de l'année prochaine, et ça me donne l'occasion de présenter un des nouveaux services de la BPI, une bibliothèque numérique va voir le jour à l'intérieur de la bibliothèque avec une vision rétrospective aussi, puisque l'essentiel des débats et des rencontres que nous organisons depuis plusieurs années seront disponibles à la lecture, en fait, enfin seront disponibles de manière électronique sur les postes de la bibliothèque. Voilà, et accessibles à tous. Merci.
Tant qu'on est dans la pub, je rappelle qu'il y a si vous voulez être du voyage, il y a un colloque sur Blanchot à Melbourne au mois d'août, et puis plus proche, plus près de chez nous, comme on dit, dans la pub aussi, à Louvain, en Belgique, au mois de mars. Les dates sont précises, ne sont pas encore connues, mais c'est en fin de semaine, sur deux ou trois jours de fin de semaine, dans le mois de mars. Écoutez, il me reste à vous remercier de votre présence. Je remercie aussi particulièrement les lecteurs, et je pense qu'on peut remercier surtout Pierre-Antoine pour avoir mené cet atelier pendant 6 mois,
et
ou presque.
Et moi, je tenais à remercier aussi non seulement les intervenants ici présents, mais également et surtout particulièrement Pierre-Antoine Villemaine et Christophe Bidan, qui vraiment ont organisé les ateliers de lecture et les interventions, ont mené les conférences, animer tous ces débats et ces rencontres, et voilà, ont vraiment permis à cette expérimentation de voir le jour à la BPI. Merci.